Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tout de suite, le journal de 8h avec vous, François Geffrier. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ils étaient si bien partis qu'on les voyait déjà filer vers un grand chelem au tournoi des Six Nations. Les Bleus du rugby ont retrouvé le plus haut niveau et l'enthousiasme, on vient de l'entendre. Première victoire en une décennie à Dublin, et ce après un large succès à Rome. Mais plutôt que de compter les points et les bonus offensifs ce matin, on calcule les risques de contamination au sein du 15 de France après plusieurs cas positifs dans son staff, et alors qu'il faut rejouer dans 9 jours.
Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste rugby d'Europe 1. Vous suivez les Bleus dans ce tournoi des Six Nations. La Fédération française de rugby essaie déjà de répondre à la question suivante. D'où vient cette contamination ?
Et le scénario le plus probable, hein, c'est celui d'une contamination à l'entraînement. La semaine dernière, le 15 de France s'est entraîné avec l'équipe de France de rugby à 7, dont la moitié des joueurs a depuis été testée positive au Covid. L'équipe de France de rugby à 7, hein, qui n'était pas dans une bulle sanitaire aussi stricte que le 15. Et si c'est bien comme ça que Fabien Galthié et deux de ses adjoints ont été contaminés, alors on imagine mal comment tous les joueurs pourraient avoir évité le virus.
Alors Simon, qu'est-ce qui est prévu là très concrètement aujourd'hui du côté du 15 de France?
Alors ce matin, Marcoussi est désert. Le QG du rugby français, d'habitude en effervescence en plein tournoi, a été vidé de quasiment tous ses occupants. Les joueurs sont rentrés chez eux et ont pour consigne de rester à l'isolement. Alors les derniers tests effectués avant-hier sont tous négatifs concernant les joueurs du 15 de France. Mais prudence avec le délai d'incubation du virus, et de nouveaux tests PCR sont prévus aujourd'hui avant une autre batterie de tests et d'analyses dimanche à Marcoussi pour ceux qui seront arrivés jusque-là.
La question qu'on se pose, Simon Rubin, c'est pour la suite. Est-ce que le tournoi, la suite du tournoi Destination est entre parenthèses ?
Alors c'est le scénario catastrophe pour le tournoi. Les Français ont peur de perdre tous leurs joueurs, mais les Irlandais également, eux qui ont affronté les Bleus le week-end dernier et qui redoutent d'avoir été contaminés à ce moment-là. Et puis du côté de la Fédération écossaise, prochain adversaire de la France le 28, on n'est pas rassuré, aucune envie de courir le moindre risque. Alors en ce qui concerne les Bleus, tout joueur positif sera privé du match dans 9 jours contre l'Écosse, même en cas de guérison entre-temps, parce qu'on connaît mal les séquelles du Covid associées à la violence des chocs d'un match de rugby, donc on ne prend pas de risque. Potentiellement, c'est tout le groupe, 31 joueurs qu'il faudrait donc remplacer. Alors Fabien Galthié et son staff s'y préparent, même si c'est peu probable d'un point de vue scientifique. Les résultats des nouveaux tests PCR sont attendus demain.
Oui, le scénario catastrophe, alors que ce tournoi Destination avait si bien commencé. Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
À propos de l'épidémie, ça y est, la barre du million de Français ayant reçu 2 doses de vaccin contre le Covid est franchie. C'est chose faite pour un tiers des résidents des EHPAD, on l'entendait dans le dossier du journal de 7h. Mais prudence toujours face aux contaminations et aux variants qui progressent, avec une décision annoncée hier par Olivier Véran qui concernera toutes les personnes testées positives.
Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts.
Le ministre de la Santé lors de la conférence de presse hebdomadaire hier soir.
C'est une perte abyssale que vient d'annoncer le groupe Renault pour l'année 2020. 8 milliards d'euros.
Oui, l'équivalent d'ailleurs des pertes cumulées d'Air France, KLM et d'Airbus qu'on vous donnait hier. Alors pour la suite, le constructeur automobile mise sur une meilleure rentabilité de chaque modèle ainsi que sur des nouveautés, la R5 électrique. Mais une autre nouveauté pourrait être cruciale. Aurélien Fleureau, c'est l'entité appelée Mobilize, avec un Z, qui va permettre la diversification du constructeur.
Oui, dans le plan stratégique présenté il y a un mois par Luca De Meo, Mobilize était cité en dernier, après les piliers, Renault évidemment, un pôle Dacia Lada, des voitures plus abordables, Alpine pour le sport, et donc ce quatrième axe qui réunit les différentes initiatives qui doivent transformer le constructeur automobile en fournisseur de mobilité. La voiture individuelle a encore de beaux jours devant elle, mais elle ne peut plus être la seule alternative offerte. Autopartage, livraison du dernier kilomètre, berline adaptée au service de VTC, recyclage des batteries, mais aussi modèle de financement innovant. Voilà tout le panel proposé, sans oublier la gestion des données des voitures connectées, de quoi permettre la transformation de Renault. C'est en tout cas l'objectif de Luca De Meo.
Je dis que Renault, on va en faire un constructeur de voitures profitables qui intègre de la tech. On veut le tourner en une entreprise technologique qui intègre des véhicules.
Mobilize a pour ambition de générer 20% du chiffre d'affaires de Renault d'ici 2025. C'est d'ailleurs la directrice financière du groupe Clotilde Delbos qui a été nommée à sa tête.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport, on va dire spécialiste mobilité donc d'Europe 1.
Dans l'actualité aussi, il y a cette accusation de viol. Une enquête est ouverte, elle vise Patrick Poivre d'Arvor.
Oui, accusée donc de viol par l'écrivaine Florence Porcel. Elle dénonce dans un livre des faits survenus en 2004 à TF1, dont le journaliste présentait le 20h à l'époque, et en 2009 aussi d'une société de production. PPDA parle d'une dénonciation calomnieuse.
Venons-en à cette innovation dont on vous parlait dans les titres, innovation assez frappante, des bateaux à voile XXL, destinés non pas à la plaisance ou à la course au large, mais bien au transport de marchandises.
Oui, un peu d'écologie et un peu d'économie de carburant. On observe en ce moment une vraie compétition, plusieurs initiatives et prototypes de voiliers cargo. C'est ainsi qu'une cargaison de cacao a été livrée à Nantes il y a deux jours.
Bonjour Charles Guyard.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans l'Ouest. On écoute votre reportage car vous avez pu faire la visite de ce bateau.
Nous voilà là dans la cale du navire.
Ici, 33 tonnes de cacao attendent d'être déchargées et l'odeur enivrante se diffuse jusque sur le pont duquel s'élèvent deux grands mâts où sont hissées les voiles.
Quand on est pleinement abattu, on monte à peu près à 650 mètres carrés de voile.
Une surface de voile qui, gonflée par le vent, a permis au capitaine Loïc Briand de ramener à une allure appréciable des Caraïbes ce fameux cacao destiné à faire des tablettes de chocolat en Bretagne. Objectif, montrer que le transport à la voile n'engendre pas de surcoût démesuré par rapport au cargo à moteur et surtout qu'il est bien moins polluant.
Le surcoût de ce transport à la voile, c'est 10 centimes par tablette. Une tablette transportée à la voile, on va émettre 17 fois moins de CO2. À l'aller, entre Saint-Malo et New York, on a consommé 40 litres de gasoil.
New York, qui était en fait la première étape du périple où le bateau a acheminé à l'aller 15 000 bouteilles de vin bio, le tout donc grâce aux alizés. Une prouesse qui a forcé l'admiration d'un spécialiste du genre, Alain Roura, skipper du Vendée Globe, frôlé au beau milieu de l'Atlantique le temps d'un bref échange radio.
Et il était assez surpris de nous voir en fait. Il pensait pas qu'un bateau de 90 tonnes pouvait avoir ces vitesses-là.
Parti de Saint-Malo le 18 novembre, le voilier est donc arrivé mercredi soir à Nantes. À son bord, quatre membres d'équipage qui reprendront le large en avril.
Alors Charles Guyard, on va le dire hein, quand même, le transport maritime, c'est le mauvais élève en regard de l'accord de Paris hein, sur le climat, accord dont il avait été exclu. Alors les chantiers de Saint-Nazaire, chantiers navals, eux se sont penchés aussi sur cette question de l'impact environnemental. La preuve, cette semaine, Charles, on y a présenté un sacré prototype.
En effet, les chantiers navals ont tout simplement ressuscité ce qui a fait ses preuves des siècles durant en matière maritime, la bonne vieille voile. Enfin, le concept de voile plutôt où le tissu sera remplacé par du composite bien plus résistant, monté sur un immense mât. C'est le projet Solid Sail présenté cette semaine. Cet été, un prototype de 40 mètres de haut doit ainsi être inauguré à Saint-Nazaire. Suivra un second de 80 mètres en 2022 qui pourra lui supporter plus de 1000 mètres carrés de voilure. De quoi faire avancer des paquebots XXL et leurs milliers de croisiéristes sur les mers du globe. Mais cette propulsion à voile commence également à séduire des multinationales œuvrant sur plusieurs continents, comme Michelin, qui a ainsi conclu un accord avec Neoline, c'est une société nantaise, pour utiliser son futur cargo à voile, lequel opérera entre Halifax et Saint-Nazaire. Et en 2022, avant de s'envoler vers les étoiles, eh bien c'est par la mer que la fusée Ariane sera acheminée en Guyane sur un navire en cours de construction. Il sera lui aussi poussé par le vent.
Dossier complet signé Charles Guyard depuis l'Ouest avec Virginie Salmen.
Persévérance a atterri en douceur sur Mars et transmis une première photo. Persévérance, c'est cette mission de la NASA qui veut rechercher des traces de vie passées sur la planète rouge. Échantillons qui seront collectés en espérant qu'une autre expédition puisse venir les récupérer dans les années 2030. Alors tout ça devrait être le fait de machines et de robots. Mais au fait, quand est-ce que des humains poseront le pied sur Mars? La question a été posée hier soir au patron de la NASA, Steve Yurgic. Voilà, réponse à peu près approximative, hein, vous l'entendez, entre le milieu et la fin des années 2030, nous commencerons peut-être à utiliser les moyens qui nous servent à aller sur la Lune pour aller vers Mars.
La Terre a rendez-vous avec Mars, ça nous rappelle une chanson.
Le soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'est pas là et le soleil attend. Ici va souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant.
Charles Trenet, qui avait donné au soleil un rendez-vous avec la Lune, Trenet, disparu il y a tout juste 20 ans. Le fou chantant, comme on le surnommait, personnage mythique. On ne sait pas s'il rêvait d'aller sur Mars, mais il avait parlé de ses rêves à Jean-Pierre Elkabbach.
Moi, je chante des choses qui sont plus ou moins rêvées. Parce que quand je dors la nuit, je ne rêve jamais. Et j'ai la faculté de rêver dans la journée ou de rêver quand j'écris. Mes chansons proviennent de rêves éveillés.
Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Imperturbablement, vous chantez l'enthousiasme et il y a de la joie.
Oui, j'ai même parfois le sentiment que c'est un devoir aussi, étant donné que l'époque n'est pas tellement joyeuse, que les gens viennent aussi pour oublier, pour rêver joyeusement. Et alors à ce moment-là, cela me met en joie vraiment, et je chante, il y a de la joie avec plaisir et avec vérité.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit.
Charles Trenet, il y a de la joie, une bonne phrase à garder en tête pour votre week-end, qui arrive ensoleillé et doux, c'est
voilà.
Cadeau.
Et qui est Charles Trenet qui disait que l'époque n'était pas très joyeuse. Voilà, il y a des points communs aussi avec aujourd'hui. Merci François Geffrier, 8h11.